noches separadas, das irmás, ergámonos, mujeres, rachemos las barreras, en fe. Reconocémonos todas mujeres, no sentir donos allá, oprimidas las mujeres, queremos rebelar.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vais commencer par vous parler du rapport du HCE sur le sexisme qui vient de sortir. Donc c'est un nouveau rapport qui montre que le sexisme fait davantage de victimes. Médias et gouvernants s'appliquent à l'ignorer, à regarder ailleurs et à mettre en accusation les féministes. Est-ce que vous ne dites pas qu'il y a une responsabilité des féministes ? Pourquoi ce que vous dites n'impacte pas ? La réponse est dans la question posée par Léa Salamé ce lundi 23 janvier sur France Inter, alors que le Haut Conseil à l'égalité, le HCE, a réservé l'exclusivité de la présentation de son cinquième rapport sur l'état alarmant du sexisme en France à la radio de service public. Comment le discours des féministes peut-il impacter si les médias dénigrent les messagères ? Anne-Cécile Meilfer, présidente de la Fondation des femmes, et Sylvie-Pierre Brossolette, présidente du HCE, font observer que les associations féministes alertent, produisent des chiffres, des analyses, des recommandations, protègent les victimes du sexisme, interpellent les gouvernements. Mais la journaliste Léa Salamé préfère faire diversion en s'attaquant à la cible préférée des antiféministes à l'aide d'une question d'un certain Sébastien. Avec des gens comme Sandrine Rousseau qui caricaturent les relations hommes-femmes, il ne faut pas s'étonner que le sexisme ait de beaux jours devant lui. Et précise avec gourmandise Léa Salamé, il y a plein de questions comme celle-là. Bingo ! Rendre les féministes coupables du sexisme est le sport favori des antiféministes, qui dominent le discours médiatique de leur inversion de culpabilité. Que ne demande-t-elle ? Pourquoi les responsables politiques ne prennent pas en compte tous ces rapports ? Pourquoi le Grenelle des violences conjugales a accouché d'une souris ? Pourquoi l'éducation nationale ne fait pas un travail d'éducation à l'égalité ? Pourquoi la police classe sans suite tant d'affaires de violence ? Pourquoi le nombre de féminicides ne baisse pas ? Pourquoi la situation s'est détériorée alors que dès le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre la violence sexiste étaient soi-disant les grandes causes nationales ? Le Standard de France Inter avait certainement bien des questions de ce type de la part de ses auditeurs et auditrices. Alors ce rapport, eh bien, on ne sait pas si ça servira à quoi, à caler les armoires de l'Élysée peut-être. Et les responsables politiques, que font-ils ? Donc les journalistes comme Nouvelle News par exemple, qui ont demandé au HCE de pouvoir assister à la remise du rapport au président de la République, eh bien n'ont pas été invités. La cérémonie n'était pas ouverte à la presse, comme si le sujet n'était pas assez important pour que les journaux informent les citoyennes et citoyens, comme si ce nouveau rapport était encore destiné à caler les armoires de l'Élysée. Un rapport de plus pour dénoncer le sexisme, l'expliquer, faire des recommandations. Beaucoup d'énergie pour continuer de semer les graines de la lutte contre le sexisme et les violences machistes, en espérant que tout ne sera pas balayé par de trop puissants vents d'ignorance. Alors donc ce rapport, bien moi je l'ai téléchargé quand même, hein, vous pouvez, je mettrai en lien du podcast si ça vous intéresse. Donc qu'est-ce qu'il dit ce cinquième rapport ? Eh bien il dit notamment que la situation est alarmante, surtout chez les jeunes générations, surtout chez les hommes en fait de 18-24 ans. Le sexisme progresse et certaines de ses manifestations les plus violentes s'aggravent avec des jeunes hommes pétris de réflexes masculinistes. Le HCE met en cause l'industrie du porno, donc l'industrie du viol tarifé, filmé et l'absence de régulation par les pouvoirs publics. La faiblesse, voire l'inexistence de l'éducation à l'égalité n'arrange rien. Le sexisme est solidement ancré dans les têtes. Le baromètre réalisé par l'Institut Via Voice auprès de 25 personnes représentatives de la société française montre que presque tout le monde pourtant reconnaît le sexisme. 93% des Françaises et Français estiment effectivement que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière dans au moins une des sphères de la société. Mais parmi les hommes de 25 à 34 ans, près d'un quart estime qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Et tout âge confondu, 40% trouvent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. En ce qui concerne les femmes, 80% des femmes estiment être moins bien traitées que les hommes en raison de leur sexe et 37% disent avoir déjà subi des rapports sexuels non consentis. C'est bien bien fort comme pourcentage. Et d'ailleurs, voilà, ça me fait penser aussi au consentement. J'ai un article, une interview de Catherine Lemagueres, je ne sais pas si j'aurai le temps dans cette émission, que j'ai lue, sur le consentement, et qu'en est-il dans le droit, justice et viol. Donc peut-être que je vous en parlerai dans cette même émission. Alors je continue avec ce rapport du HCE. 15% des femmes interrogées ont déjà subi des coups portés par leur partenaire ou ex-partenaire, et le taux grimpe à 20% pour les 50-64 ans, soit une femme sur 5. Donc la parole s'est libérée depuis l'émergence de MeToo en 2017, c'est vrai, les enregistrements pour violences conjugales par les forces de l'ordre ont doublé depuis 2016, mais le nombre de féminicides conjugaux n'a pas baissé. Il y en a eu au contraire 20% de plus en 2021 par rapport à l'année précédente 2020. Les inégalités professionnelles et les stéréotypes dans les médias perdurent. Le HCE donne une liste de mesures à prendre d'urgence, mesures inlassablement répétées, avec un accent particulier sur un appel à la régulation de l'industrie du comme on dit l'industrie du sexe, mais non, c'est plutôt, ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est l'industrie du viol, tarifé filmé, donc est le porno, pour arrêter de faire des dégâts dans les têtes des plus jeunes. Le rapport du HCE répète beaucoup de choses, que les associations féministes, qui pour beaucoup sont membres de cette institution, ont déjà dit des choses que les précédents rapports disaient déjà. La persistance du sexisme n'est pas imputable aux féministes, mais à celles et ceux qui ne veulent pas les écouter. Le HCE a sorti une vidéo qui s'intitule « Le sexisme ». On ne sait pas toujours quand ça commence, mais on sait comment ça se termine. Donc cette vidéo est pas mal faite, effectivement, je l'ai regardée, donc, qui illustre le continuum des violences, du sexisme ordinaire au féminicide. Donc vous la trouvez sur le site on sait comment ça se termine.fr. Alors du coup, quelles sont les recommandations du HCR? Donc bref, donc il y en a 10 en résumé, je vous fais un petit résumé. Donc évidemment, augmenter les moyens financiers et humains de la justice. Voilà, impunité de la justice très patriarcale, donc il faudrait déjà avoir plus d'argent et plus de formation. Donc pour former en plus grand nombre les magistrates et les magistrats au sein des juridictions chargées de traiter les violences intrafamiliales, à l'instar de l'investissement espagnol. Donc avoir par exemple des tribunaux spécialisés comme en Espagne. Ensuite, numéro 2, instaurer une obligation de résultat pour l'application de la loi sur l'éducation à la sexualité et à la vie affective dans un délai de 3 ans et prévoir une sanction financière en cas de non-respect de cette obligation dans ce délai. Donc voilà, cette éducation à la sexualité, rien. Moi, je vois rien de fait, donc elle n'est pas du tout appliquée dans les écoles. Numéro 3, réguler les contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes, représentations dégradantes, traitements inégaux ou violents des femmes, en particulier les contenus pornographiques en ligne. Numéro 4, rendre obligatoires les formations contre le sexisme par les employeurs. En 5, généraliser l'EGA conditionnalité qui conditionne l'argent public à une contrepartie en termes d'égalité et la budgétisation sensible au genre. En 6, créer une haute autorité indépendante pour lutter contre les violences sexistes et machistes en politique. Numéro 7, conditionner les aides publiques à la presse écrite à des engagements en matière d'égalité. En 8, rendre obligatoire un système d'évaluation et une publication annuelle sur la part de représentation des femmes dans les manuels scolaires, informant, voire conditionnant leur mise sur le marché sur le modèle belge. Donc il semble que les Belges soient en avance par rapport à ça en particulier. Numéro 9, interdire la publicité pour les jouets genrés sur le modèle espagnol. Donc oui, c'est vrai que sur, j'ai entendu ça, que sur, en Espagne, ils ont beaucoup agi sur ça, et c'est vrai que c'est très important. Donc de lutter contre, dès le plus jeune âge, voilà, ici c'est, vous avez arrêté le bleu, le rose, la princesse, le guerrier, voilà, de stéréotyper les rôles sociaux avec les jouets dès le plus jeune âge, stop. Numéro 10, institutionnaliser la journée nationale de lutte contre le sexisme. Bon, pourquoi pas encore une autre, le 25 janvier. Oui, je crois que ça, ça a été retenu par notre président. Mais bon. Ok. Alors, du coup, je vais enchaîner des tas de choses à raconter, évidemment, entre les actualités et puis des textes. Donc, j'essaye de relater des textes un peu d'analyse, pour comprendre un peu comment tout ça marche. Mais voilà, donc justement, dans la dernière fois, je vous ai lu un super texte qui s'appelait « Féminité et misogynie » d'une femme qui se faisait appeler La Franchie et dont on ne retrouve plus son site. Et je m'inquiète de savoir ce qu'elle est devenue. Bon, en tout cas, je vous ai lu ce texte que j'avais heureusement... récupéré avant la disparition du site et qui était formidable, donc sur tous ces stéréotypes de genre que l'on combat, notamment sur la féminité. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à une réaction donc de Francine Sporanda, qui en parle souvent en fait de ces stéréotypes. Voilà, et donc par exemple, à un moment, elle parle de la colère. Voilà, c'est quelque chose qui moi me parle aussi. Donc, dans un texte qui s'appelle, elle a écrit bon, beaucoup, elle a un site, Francine Panda a un site qui s'appelle Révolution féministe. Je vous engage à aller voir, c'est très très complet. Et donc, elle avait écrit un texte qui s'appelait Le patriarcat, une religion d'inversion, et où elle parle de la colère qui est interdite aux femmes. Donc voilà ce qu'elle dit. Les femmes seraient incapables de contrôler leurs émotions. On les dit hystériques, alors que les hommes, eux, sont sujets en réalité à des accès de colère, de jalousie, qui peuvent aller jusqu'à la violence et au meurtre. Les hommes reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne les contrôlent pas, ce manque de contrôle étant censé excuser ces violences. En fait, il y a là un double standard. Le fait d'être dominé par ces émotions est réprouvé chez les femmes. La colère en particulier leur est interdite. Par contre, quand les hommes se laissent aller à cette émotion virile, c'est vu comme une affirmation de soi valorisante. Et cela signale leur appartenance à la catégorie dominante. Eux ont le droit de déverser leur courroux sur les dominés, de rager, de crier, de se plaindre. Et dans ce cas, les femmes doivent prêter une oreille compatissante. Mais l'inverse n'est pas vrai. Toute tentative de la part des femmes d'extérioriser leurs émotions en direction des hommes sera perçue comme importune ou hystérique. De même que le « elles parlent trop » vise à les réduire au silence. Le « elles sont hystériques » leur pose une interdiction d'exprimer leur colère, de protester ou de se plaindre. La colère est une émotion de dominant. Elle exige, elle juge, elle punit. Une femme n'a donc pas le droit de se comporter comme un homme, n'a pas le droit d'exprimer sa colère, surtout envers un homme. Alors j'ai trouvé une citation aussi par rapport à ce thème de la colère, d'une autre personne qui s'appelle, une autre femme, Alan J. Johnson, qui dit « Pour les femmes, être en colère est socialement inacceptable. Même si cette colère est due à la violence, la discrimination, la misogynie et à toute autre forme d'oppression. La colère est inacceptable parce que les femmes en colère sont des femmes qui sont en contact avec leur passion et leur pouvoir, particulièrement avec les hommes, ce qui menace tout l'ordre patriarcal. C'est inacceptable parce que ça force les hommes à confronter la réalité du privilège masculin et de l'oppression des femmes, et du rôle qu'ils y jouent, même en tant que bénéficiaires passifs. La colère des femmes met au défi les hommes de reconnaître leur tentative de banaliser l'oppression avec des « c'était une blague ». Et la colère des femmes est inacceptable pour les hommes qui attendent des femmes qu'elles prennent soin d'eux, renforcent leur besoin de sentir qu'ils gardent le contrôle et les encouragent dans leur compétition avec les autres hommes. Lorsque les femmes sont moins gracieuses et de bonne humeur face à leur oppression, les hommes se sentent mal à l'aise, gênés, perdus et donc vulnérables. Voilà. Alors, il y a aussi un thème dont parle Francine Sporanda, qui est la misandrie. Et moi, ça m'a semblé intéressant. Voilà, c'est une discussion qu'elle a eue avec d'autres féministes, parce que souvent, dès qu'on lutte, eh bien, on a tendance à se faire traiter de misandre. Il y a beaucoup de réactions, donc souvent, qui disent ah, bah ça, stop, enfin, comment dire, vous allez trop loin et vous devenez misandre, etc. Donc, voilà, à propos de la misandrie, la réflexion de Francine, je vais vous la lire parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, elle a eu donc une discussion, en fait, sur les réseaux sociaux avec une femme qui disait ça, qui disait « N'exagérez pas, les féministes, vous risquez de devenir misandre. » Du coup, Francine Sporanda discute avec cette femme et lui dit lui fait remarquer une évidence. Elle lui dit « Les femmes misandres ont souvent tout simplement peur des hommes et elles ont de bonnes raisons d'avoir peur d'eux. » Voilà, c'est bien de le rappeler, effectivement, je suis d'accord avec ça. Et ce à quoi cette femme qui dit que ben, souvent les féministes exagèrent, elle répond « La peur est légitime, mais tout le monde a peur. Ça ne doit jamais rester un état permanent, ni être revendiqué comme tel. Généraliser ne sera jamais bon. Le but, c'est d'en sortir, pas de passer son temps à dénigrer tout ce qui porte pénis. » Alors, par rapport à cette phrase, voilà ce que répond Francine Sporanda, qui est très radicale. Et qui répond à ça, eh bien, voilà le genre de féministe que je vais bloquer, que je bloque systématiquement. Le genre qui dénonce les excès du féminisme et le féminisme victimaire et qui fustige certaines féministes parce qu'elles seraient horreur misandre, refusant de voir que cette misandrie n'a habituellement que la conséquence normale et parfaitement légitime des violences que ces féministes ont subies de la part des hommes. Non. Tout le monde n'a pas peur également. La peur d'une femme victime de viol est spécifiquement féminine. Un homme ne connaîtra jamais cette peur. C'est un des plus énormes privilèges masculins que de pouvoir se déplacer partout dans l'espace public sans connaître cette peur. Je me refuse absolument à condamner des femmes qui sont devenues misandres à force d'avoir été victimisées de façon répétée par des hommes. Je me refuse à condamner la misandrie de survivantes de la prostitution qui ont été vendues à un bordel par leur père à 11 ans et ensuite violées plusieurs fois par nuit par des « entre guillemets clients » pédocriminels bien sous tout rapport. C'est vrai que le mot « client » est mis entre guillemets, je suis d'accord avec ça parce que faudrait pas appeler « clients », faudrait les appeler des prostitueurs. Je me refuse absolument à condamner la misandrie de ces femmes battues par tous les hommes avec qui elles ont été en couple. Je me refuse à condamner la misandrie résultant de violences masculines répétées. Je m'y refuse d'autant plus que la misandrie est pour ces femmes le seul moyen de se protéger contre de nouvelles revictimisations. Leur refuser leur droit de se méfier des hommes, ça revient objectivement à les livrer sur un plateau à de nouvelles agressions masculines. Tout individu a le droit de ne pas aimer et de fuir ceux qui veulent le détruire. Mais ce droit est refusé aux femmes. Comme si le but que doit obligatoirement viser le travail de reconstruction de soi après une agression, c'était de redevenir une bonne petite soldate du patriarcat, de ramener impérativement les victimes à la norme du couple, de l'hétérosexualité et du lien fondamental et intouchable avec les hommes. Et comme si le fait pour les victimes de violences sexuelles de dénigrer, entre guillemets, tout ce qui porte pénis était le crime suprême, infiniment plus grave que les violences masculines elles-mêmes. Ce féminisme qui place la protection de l'image des hommes avant l'écoute des femmes victimes d'agressions est pire que pas de féminisme du tout. Voilà, donc je vous apporte cette réflexion donc, de Francine Sporanda. Du coup, je vais enchaîner. Je vais faire une petite pause musicale, voilà. Alors, deux secondes parce que je suis désolée, mais je suis à la technique en même temps, voilà. La révolution sera féministe sur Radio Galère Alors, puisque je viens de vous parler du rapport du HCE, qui parle aussi de la lutte contre la porno-prostitution et la pornographie, l'influence très néfaste de la pornographie sur le sexisme. C'est un outil terrible, le principal outil du patriarcat. Je suis d'accord sur ça avec Andrea Dworkin, qui était une très grande militante contre la porno-prostitution. Du coup, par rapport à cette lutte, je vais vous redonner sa définition donc de Andrea Dworkin, ce qu'elle dit de la pornographie. La pornographie est l'asservissement sexuel des femmes par des images ou des mots qui les représentent comme des objets, prenant plaisir à être humiliées, battues, violées, dégradées, avilies, torturées, réduites à des parties de leur corps, placées dans des postures serviles de soumission ou d'exhibition. Alors dans son, j'ai retenu aussi dans son discours par rapport à la tuerie de Montréal que j'avais lu dans un podcast récemment. Elle parle aussi de la pornographie et elle dit « Le contrôle masculin des femmes par le biais du droit et de l'Église s'est considérablement détérioré. Voilà le genre de choses qu'on a le droit de dire tant que l'on n'ajoute pas « c'est nous qui avons fait cela, les féministes ». Mais nous l'avons fait. La raison pour laquelle nous ne sommes pas des biens dans le mariage, c'est que nous avons changé ces maudites lois. Nous avons créé une révolte des femmes dans le mariage. » Il y a maintenant des femmes qui n'acceptent pas que le mariage signifie que les hommes ont acheté un droit d'accès à leur sexe. Nous avons changé cela, nous l'avons fait. Alors que font les hommes s'ils n'ont pas le droit qu'ils avaient avant, la police qui va avec le droit qu'ils avaient avant, le pouvoir de l'Église qu'ils avaient avant? Laissez-moi vous dire ce qu'ils font. Une industrie de la pornographie, de 10 milliards de dollars par an aux États-Unis seulement. Une industrie qui fait de chaque homme son propre État, sa propre Église, et qui lui dit comment contrôler les femmes et leur faire mal. Les systèmes de pouvoir sont capables de se réorganiser et le fait que les choses semblent différentes ne signifie pas que la hiérarchie a changé. C'est la hiérarchie qu'il nous faut regarder, pas le fait que certains modèles sociaux de comportement sont différents. Il nous faut regarder qui est au-dessus et qui est en dessous et ensuite, si nous avons le cœur de le faire, nous devons regarder ce qu'il lui fait pendant qu'il est au-dessus et qu'elle est en dessous. Andrea Dworkin, c'est vraiment une des femmes les plus inspirantes par rapport à cette lutte. Et elle disait aussi que la prostitution et la pornographie représentaient la synthèse et le support donc de la domination masculine. Elle disait dans la prostitution et la pornographie, il y a tout, il y a le pouvoir de propriété. Les hommes possèdent des choses et des corps et des femmes. Il y a le pouvoir de l'argent. L'argent exprime la masculinité dans les jeux de pouvoir matériels et dans la culture. Tout le système culturel repose sur la capitalisation et l'économie. Il y a le pouvoir du sexe. Les hommes affirment que les femmes détiennent le pouvoir du sexe. Ils ne peuvent s'empêcher de bander face à elles. Renversent ainsi la réalité de la domination physique qu'ils exercent sur elles. Par tout un système patriarcal de coercition, ils réduisent les femmes au sexe. Les hommes ont besoin du corps de la femme pour développer toute la haine et la violence que l'éducation patriarcale leur inculque. Et c'est dans et par la violence que le patriarcat se maintient et perdure. La violence faite aux femmes commence dès l'enfance, parce que l'homme, dans une société patriarcale, dans une société où il doit dominer et maintenir sa domination sur femmes et enfants, est dans l'obligation de se construire, et le plus tôt possible, une identité sexuelle qui l'oppose à celle de la femme. La dualité des sexes est indispensable pour construire la virilité prédatrice. C'est ainsi que la femme doit être domestiquée, servile, pacifique, faible, idiote, et l'homme fort, intelligent, conquérant, guerrier, libre. La prostitution et la pornographie sont des instruments sexistes de contrôle social pour les femmes qui ne respectent pas les lois, et le stigmate de la putain est là pour le rappeler. Voilà, il y a aussi John Stoltenberg qui a lutté contre la pornographie. Et dans son livre « Refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité », il a analysé comment le langage pornographique a d'abord été une voie de contestation des pouvoirs établis, politiques et religieux, et ensuite est devenu un instrument de promotion du patriarcat. C'est une analyse qui permet de comprendre comment les critiques de la pornographie comme expression d'un système de domination sont systématiquement accusées d'être politiquement rétrogrades via la confiscation du discours sur la libération sexuelle par le point de vue masculin. Donc Stoltenberg s'est appuyé sur une riche documentation pour montrer comment le porno, loin de promouvoir la liberté sexuelle, fait en réalité la promotion du pouvoir masculin sur le corps des femmes et de l'objectification violente de celui-ci. Avec l'érotisation des valeurs de la domination masculine, qui rend le sexisme sexy, où on confond sexualité et prédation. Voilà, donc en fait, il y a un chapitre dans son livre qui est très important, qui s'appelle « Affronter la pornographie comme enjeu de droit civique », où justement il propose une rétrospective très détaillée de la lutte qui a été engagée par Andrea Dworkin et d'autres féministes à l'époque, donc dans les années 70, contre le cinéma et les écrits pornographiques sur le terrain du droit, sous l'argument que la pornographie serait en soi une pratique violente et l'exercice d'une discrimination sexuelle. Ainsi, pour la première fois, grâce à ces féministes, la pornographie n'est pas attaquée pour son obscénité, mais pour le préjudice qu'elle inflige. Je voulais vous parler de la banalisation de la prostitution dans les médias, partout. Nouvel épisode, xème, énième épisode de banalisation qu'on trouve. Nous sommes pourtant dans un pays abolitionniste, mais il n'y a aucune éducation sur ce que c'est que cette loi, comment elle protège les victimes de prostitution. Donc il n'y a rien qui est fait là-dessus, on se demande pourquoi, mais voilà, en fait il y a sans arrêt une banalisation justement de la prostitution avec les termes travail du sexe, etc. Donc partout, tout le temps, comme si ce qui permet de cette propagande permanente qui nous empêche d'appliquer correctement justement cette loi abolitionniste. Donc énième épisode dans les médias, alors enfin moi j'en vois tous les jours aussi, hein, je sais pas, même sur les séries qu'on regarde à la télé, je sais pas, la dernière fois sur Netflix je tombe sur une série qui parle d'une femme qui serait hyper chouette, hyper transgressive, parce qu'entre autres elle est maquerelle, géniale, voilà, c'est pas, j'hallucine. Donc voilà, le titre de la série que je vais pas regarder, voilà, c'était « Entre honnête mère de famille et maquerelle, il n'y a qu'un pas incessamment franchi par une quinquagénaire russe épuisée ». Une série comique, grinçante, qui fait la part belle aux femmes de tête, quel que soit leur métier. Vraiment génial, quoi. Voilà. Donc, il y a eu aussi Isabelle Germain des Nouvelles News, donc, qui dénonce aussi ce sexisme ordinaire dans les médias, et qui s'arrête sur de nouveaux discours qui renforcent en permanence le système prostitutionnel. Donc, il y a sans arrêt des bruits médiatiques pour défendre le proxénétisme et la prostitution. Alors elle parle d'un film qui est voilà, moi je vais vous lire son article. En fait, au beau milieu de reportages sur la guerre en Ukraine, l'apocalypse climatique, la révolution sévèrement réprimée en Iran, les nouveaux coups portés aux Afghanes, les médias français ont pris du temps, beaucoup de temps, pour porter au nu un film qui encense la prostitution, La Maison, d'Anissa Bonnefond, adaptation d'un livre d'Emma Becker qui raconte de façon romancée 2 ans de prostitution dans un bordel à Berlin. Le film reprend, comme le livre il y a 2 ans, et les médias en écho, tous les clichés sur la prostitution. Comme l'explique très bien un billet dans le Mediapart, les fissures de La Maison ou les contradictions d'Emma Becker. Billet qui a beaucoup moins de retentissement médiatique que n'importe quel discours pro-prostitution. Alors ce billet qui s'intitule « Les fissures de la maison, les contradictions d'Emma Becker », moi je le connais en fait, c'est justement écrit par, très bien écrit par Francine Sporanda pour dénoncer ce livre. Et à l'époque elle avait parlé du livre d'Emma Becker. Oubliez les trafics d'êtres humains, ces femmes arrachées à leur pays, battues, violées, droguées, privés de leurs papiers et vendus par des proxénètes à des hommes considérés comme des braves types. Ignorer la prostitution des mineurs, ces très jeunes filles vulnérables cueillies par de jeunes proxénètes qui les enferment dans des chambres sordides et vendent leur corps à des clients. Donc je vous signale aussi que la prostitution des mineurs a explosé. Elle explose en ce moment. Donc des protecteurs de ces jeunes victimes expliquaient ici que ce commerce de filles était moins risqué que le trafic de drogue, car il n'y a pas à payer de matières premières en amont. Les 90% de personnes prostituées de force sont invisibilisées, donc dans ce film, dans ce livre, dans le récit des médias. Les personnes prostituées s'appellent alors travailleuses du sexe et racontent des fables allant de la dévergondée excitée par l'idée d'être violée et de subir des violences à la figure de l'assistante de vie qui donne un peu de plaisir à des hommes en état de misère sexuelle. Nombre de journaux livrent une critique du film très éloignée du sujet qu'il traite. Dans Paris Match, l'actrice du film se raconte sur 3 pages, rien de sordide. On parle de démarche artistique, de direction d'acteurs et d'actrices impeccables. Aucune place pour dénoncer l'objectification des êtres humains ou la violence de la prostitution. Tout juste concède-t-elle quelques inconvénients quand elle a sur elle les odeurs de 5 corps différents ou le fait qu'elle ne veuille pas que son père voie le film. Sur France 2, donc mardi 15 novembre dernier, un plateau télé réunissait autour de l'autrice du roman qui a inspiré le film une brochette de militantes de la prostitution et du proxénétisme. Seule une mère ayant sauvé sa fille préadolescente d'un trafic de jeunes proxénètes pouvait apporter une voix dissonante, mais elle a d'emblée affirmé que le cas de sa fille était différent de celui des personnes présentes sur le plateau. Cette minorité de prostituées qui se discontentent de leur sort et veulent l'abolition de la loi de 2016 de lutte contre le système prostitutionnel. Évidemment, c'était que ces personnes-là qui avaient été invitées. Mais d'autre part, on sait que les femmes colonisées par le discours agresseur sont du fait même enrôlées à son service et deviennent en quelque sorte ses hommes de main. En particulier en reproduisant sur elle-même et sur les autres femmes la violence dont il est porteur. C'est d'une certaine façon ce que fait Emma Becker lorsqu'elle normalise la prostitution. Elle est probablement à la fois complice et complice parce que victime. Donc là, cette dernière phrase que je viens de vous dire, c'est Francine Sporanda qui l'expliquait en fait, pour expliquer comment des femmes peuvent défendre la prostitution. Et c'est tiré justement de cet article, ce billet qui a été publié sur Mediapart qui s'appelle « Les fissures de la maison » ou « Les contradictions d'Emma Becker ». Puis un féminicide commis par un « client » entre guillemets sur une personne prostituée a été rapporté dans la presse. Et une nouvelle fois, beaucoup de militants de la prostitution mais aussi de femmes et d'hommes politiques ont mis en cause non pas le criminel mais la loi de lutte contre le système prostitutionnel de 2016. Donc c'est complètement incroyable ce retournement, cette inversion, alors que c'est une loi qui protège les victimes du système. Et évidemment, l'application de cette loi se heurte à un manque de moyens. On comprend pourquoi, vu toute cette propagande, ce manque de volonté de la faire appliquer. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur toute cette propagande de banalisation que l'on subit tout le temps ? Plein de choses. Bien, voilà, je pourrais. Il y a aussi, par exemple, le livre de Virginie Despentes, qui a été encensé, alors qu'elle aussi, c'est une mère maquerelle, en fait, puisqu'elle fait la promotion de la prostitution. Il y a, alors justement, voilà, en réponse à toute cette banalisation, j'ai pas mal de. Évidemment, de réponses, évidemment, vous en doutez, puisque toutes les abolitionnistes essayent de répondre à tout ça et notamment à cette propagande, donc je veux dire de lutter contre cette propagande. Alors notamment il y a eu Marie-Hélène Franjou qui est directrice de l'Amicale d'Uni qui a donné cette réponse que je trouve chouette, intéressante, donc je vais vous la lire. En fait elle répondait par rapport à là c'est pas une banalisation dans les médias mais c'est quelque chose qui est peut-être aussi grave, aussi inquiétant, voilà, c'est que, en fait, il y a le syndicat de la magistrature en France qui a demandé la réalisation d'une étude comportant des éléments de recherche, l'évolution de la législation, droit comparé, etc., réflexion, analyse sur les enjeux au sujet de la prostitution, sauf que quand il a commandé sa recherche, il a intitulé cette demande en disant, au lieu de parler de prostitution, il demande travailleuse, il a écrit travailleuse et travailleurs du sexe. Alors évidemment, ce rapport était complètement, faussé du fait qu'il parle de la prostitution en ces termes. Et du coup, ce rapport qui a été commandé par deux jeunes, a été commandé à deux jeunes chercheurs d'une vingtaine d'années, qui en fait étaient déjà, en fait, en défense de pas du tout sur l'abolition en fait, puisque voilà, ils répondaient en termes de travail du sexe quoi. Et en fait, le texte, donc voilà, c'est assez dramatique puisque le syndicat de la magistrature, qui demande un rapport et qui un rapport de fossé de ce type-là. Et le rapport était introduit par une parole de Virginie Despentes. Cette parole de Virginie Despentes, c'était « Ce qui est irrecevable, ce n'est pas qu'une femme soit matériellement gratifiée de ce qu'elle satisfait le désir d'un homme, c'est qu'elle le lui demande explicitement. » Voilà, donc ça, c'est la phrase qui commençait le rapport. Et voilà la réponse de Marie-Hélène Franjou, que je trouve super. Donc, qui dit « Le corps n'est pas un objet et il est indissociable de la personne qui est achetée pour quelques instants par le client prostitueur. C'est une survivance de l'esclavage que les abolitionnistes combattent. » Elle dit « Je m'appuierai sur les propos confiés aux salariés de l'Amicale du Nid par les milliers de personnes en situation de prostitution qu'il et elle accompagnent chaque année depuis 1946. » Donc les personnes en situation de prostitution, c'est une extrême majorité de femmes évidemment. Donc elle dit « Ce qui est irrecevable, ce sont surtout les violences qu'elles subissent. » Et certainement pas le fait que, soi-disant, une femme demanderait explicitement de se faire payer. Ça, c'est un mythe complètement patriarcal. Imagine-t-on ce que c'est que de subir sans aucun désir 10, 15, 20 actes sexuels dans une journée, agrémentés souvent de violences physiques, sexuelles et d'injures. Évoquons les déchirures vaginales et anales produites par des pénétrations sadiques, les grossesses imposées, les avortements faits dans des conditions non sécures, les frappes sur la tête et sur les autres parties du corps, les brûlures de cigarettes ou toutes sortes d'autres sévices, voire des actes de barbarie. Évoquons plutôt les addictions pour supporter les idées ou tentatives de suicide quand ce n'est plus supportable. Évoquons le stress post-traumatique, comme chez les traumatisés de guerre. N'oublions pas les infections sexuelles, le VIH ou d'autres infections, comme récemment la Covid-19, que leur transmettent les clients prostitueurs. Et les décès prématurés, secondaires à des violences, à des maladies, à des suicides, à des meurtres. Et pour finir, il y a l'enfant qu'elles peuvent avoir et qui, comme l'enfant d'une femme en couple avec un homme violent, est lui aussi victime. Comme les histoires de vie confiées à l'Amicale du Nid, la collecte internationale des études scientifiques sur la santé des personnes, des femmes la plupart en situation de prostitution, est très éloquente. Une victime nigériane de la traite, Baina, rencontrée à l'Amicale du Nid de Paris, a témoigné de la gravité des violences subies. Alors qu'elle n'avait jamais eu de rapport sexuel, elle a été ligotée et violée à 17 ans. À 8 reprises, Baina est tombée enceinte à la suite de rapports avec des clients, donc des prostitueurs qui refusaient de mettre un préservatif. Ces proxénètes l'ont à chaque fois obligée à avorter en lui donnant des coups de pied dans le ventre. Surveillée en permanence, elle n'a pas eu une minute à elle entre 2000 et 2007. Ça, c'est un rapport qui avait été remis sur la prostitution à l'Assemblée nationale en 2011. Quel est l'homme? Donc, je continue avec Marie-Hélène Franjou, donc, qui fait partie aussi d'un collectif abolition, donc, et qui donc a répondu au syndicat des magistrats qui avait demandé ce rapport. Quand elle a eu connaissance du rapport, elle a fait cette réponse. Donc elle continue. Quel est l'homme acheteur d'un acte sexuel qui demande à la personne en face de lui pourquoi elle est là et comment elle vit la prostitution? L'homme paye la prestation de service, l'homme consomme et s'en va. Aucun homme ne sait faire ici la distinction entre prostitution et traite. Cela n'a aucun intérêt de la rechercher, car il est très confortable de ne pas savoir. Cela permet d'imaginer que la personne en face de soi a choisi la prostitution et de revendiquer une ouverture d'esprit en parlant de travail du sexe. Cela permet aussi d'affirmer sans risque, à l'occasion d'un bavardage, que la traite est à combattre. Ce qui est irrecevable, ce sont les dommages sur la vie et la santé psychique, physique et sexuelle des personnes qui ont vécu ces violences et qu'on ne veut pas appeler victimes, car il conviendrait alors de rechercher des auteurs. Ce travail, ce rapport de ces étudiants se termine en conseillant d'élever le débat, entre guillemets, et de réfléchir à replacer, entre guillemets, les individus au cœur des politiques publiques et des textes législatifs entourant la prostitution et de regarder d'abord les effets des lois sur les personnes. En ce qui me concerne, je dirais qu'il est temps de s'intéresser bien davantage aux acheteurs d'actes sexuels, à la violence masculine envers les femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, pour lutter contre le « entre guillemets sacrifice » actuel et méconnu des personnes prostituées. Je dirais qu'il est temps de réaliser de grandes campagnes d'information destinées à l'ensemble de la population et à toutes et tous les professionnels concernés pour faire connaître la réalité de la prostitution. Je dirais qu'il est plus que temps de répondre aux besoins légitimes de connaissance des enfants sur ce qu'est la sexualité et les dangers de la prostitution, afin qu'ils n'aillent pas s'informer en regardant de la pornographie. Ce n'est pas la loi qui est à l'origine des violences de la prostitution. Ces violences existent depuis que la prostitution existe, et quelle que soit la législation choisie par les États. C'est le patriarcat qu'il convient de questionner, c'est la prostitution qu'il convient d'abolir. La loi de 2016 permet aux personnes qui le souhaitent d'être mieux accompagnées vers la sortie de la prostitution, en même temps qu'elle responsabilise les clients prostitueurs. Elle fonctionne très bien quand elle est appliquée. Mais bien sûr, si les clients prostitueurs disparaissaient, proxénètes et trafiquants d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle n'auraient plus les énormes revenus qui sont les leurs aux dépens des personnes prostituées. C'est pourquoi l'Amicale d'Uni, aux côtés de toutes les autres associations abolitionnistes, demande que la loi soit appliquée avec détermination dans toutes ses composantes et sur l'ensemble des territoires de la République.
Thank you.
Donc la révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, je vais faire un focus sur la laïcité. Donc la laïcité qui est très souvent attaquée et que je défends farouchement. Donc en fait, qui parle très bien de la laïcité ? Eh bien, une association qui s'appelle Femmes Solidaires à Marseille. Justement, j'avais aussi des audios que je voulais vous faire passer. Et qui a une exposition en fait pour expliquer un peu ce que c'est que la laïcité. Cette exposition est vraiment super bien faite. Et voilà, donc Femmes Solidaires, en fait, c'est une association féministe nationale avec plein d'antennes. Elle existe à Marseille et elles font de l'éducation populaire, c'est formidable. Et donc, elles ont des expositions en stock et notamment une sur la laïcité. Et ensuite, elle a ces expositions, eh bien, elles peuvent être utilisées voilà, dans les espaces publics, demandées par les mairies ou dans les écoles. Elles font aussi de l'éducation, justement, c'est très important. Donc c'est vrai que c'est intéressant de revenir sur l'histoire de la laïcité. Donc la laïcité en marche. En France, la laïcité n'a pas été une création spontanée. Elle est le fruit d'un long processus historique à visée universelle. Elle s'inscrit dans un continuum historique. Alors quelques dates. Avril 1598, Henri IV met fin aux guerres de religion entre protestants et catholiques avec l'édit de Nantes, qui accorde des droits de culte, des droits civils et de droits politiques aux protestants. Mais en octobre 1685, les rapports de force ayant changé, Louis XIV révoque l'édit de Nantes avec un nouvel édit, celui de Fontainebleau, qui interdit l'exercice de la religion protestante et toute immigration de protestants. Les pasteurs sont bannis. Le siècle des Lumières, de 1715-1789, voit le dépassement de l'obscurantisme et la promotion des connaissances. Des philosophes et intellectuels encouragent la science, l'avancée de la pensée rationnelle, en s'opposant à la superstition, à l'intolérance et aux abus de la religion. Le 4 août 1789, la Révolution s'installe et abolit la société des trois ordres, noblesse, clergé, tiers-état, et donc les privilèges de la noblesse et la représentation politique du clergé. Le 28 août 1789, l'Assemblée rejette la reconnaissance du catholicisme comme religion d'État. Le 20 septembre 1792, l'état civil remplace les registres paroissiaux. Dans le grand livre des citoyens, chacun est inscrit de la naissance à la mort, sans distinction de rang, de sexe ou de religion. Le 2 avril 1871, 34 ans avant la loi de 1905, la Commune de Paris décrète la laïcisation de l'État et, avec un article, l'Église est séparée de l'État. Le 11 novembre 1871, le mot « laïcité » fait son apparition dans le littré. En 1881 et 1882, les lois Ferry rendent l'enseignement public gratuit, obligatoire et laïque. En 1894, dans un contexte nationaliste et antisémite, éclate l'affaire Dreyfus, qui divise la France pendant 12 ans. Le capitaine Alfred Dreyfus est accusé injustement de trahison par l'armée française pour des motifs antisémites. En juin 1903, est créée une commission de 33 députés pour préparer la séparation des églises et de l'État. Elle est présidée par Ferdinand Buisson et son rapporteur est Aristide Briand. Et la date qu'on connaît, tout le monde connaît, le 9 décembre 1905, donc vous voyez déjà tout le parcours qu'il y a eu avant, est adoptée la loi de séparation des églises et de l'État. Alors, ce qui n'est pas si connu que ça, c'est que la laïcité protège. La laïcité, c'est pour tout le monde. Comme tous les principes émancipateurs, elle protège les minorités, y compris sociales, et profite à toutes et tous. Donc, elle protège les minorités religieuses. Le plus souvent, lorsqu'il y a une religion d'État dans un pays, les minorités religieuses ne sont pas protégées. Pratiquer un culte minoritaire peut même représenter un risque grave pour les personnes et restreindre leur accès à certaines fonctions, métiers et droits. Elle protège les athées en proclamant la libre conscience et l'esprit critique. La laïcité reconnaît le droit à chacun et chacune de croire ou de ne pas croire. Et nul ne peut être inquiété, persécuté ou discriminé parce qu'il ou elle ne croit pas. Ce qui fait que la laïcité est compatible avec toutes les religions. Alors que les lois religieuses nient le droit à l'existence des athées, les discriminent et les persécutent. La laïcité protège aussi les lesbiennes,
les gays et la communauté LGBT. Alors que dans les régimes théocratiques, où la loi religieuse s'impose à tous, les LGBT sont persécutés et souvent exécutés. Les religions monothéistes ne tolèrent pas la liberté sexuelle. En affranchissant les lois civiles des dogmes religieux, la laïcité protège les individus, quelle que soit leur orientation sexuelle. La laïcité permet d'offrir un espace d'accueil, un droit d'asile pour les personnes persécutées dans leur pays, en vertu de lois religieuses, notamment celles criminalisant leur orientation sexuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas si connu que ça, en fait. La laïcité protège les mineurs. En interdisant le prosélytisme religieux et ses menaces ou pressions sur les citoyennes et citoyens, la laïcité protège les mineurs. Elle permet aux élèves de ne pas avoir déclaré une croyance ou une non-croyance. L'école publique et républicaine traite les élèves à égalité. Elle est un espace d'émancipation, de liberté individuelle et collective. La laïcité protège aussi les personnes en incapacité d'exprimer leur choix. La situation de vulnérabilité ou de handicap d'une personne ne donne aucun droit à qui que ce soit de lui assigner une religion, ni de lui imposer ses préceptes. Nul n'a le droit de prendre une décision fondée sur des croyances à la place d'une personne dont il a la charge. La laïcité, c'est donc un principe à portée universelle. C'est un concept qui n'est pas du tout franco-français, c'est universel. Elle peut s'appréhender dans un contexte national comme international, et elle opère dans un rapport de force permanent entre ceux et celles qui la défendent et ceux et celles qui l'attaquent. Ceux qui l'attaquent tentent d'en faire une notion aléatoire et mal définie, alors que sa définition est claire. Elle désigne simplement la séparation des églises et de l'État, l'autonomie du politique face aux religieux. Et ce n'est pas parce qu'un concept ou un principe se sont particulièrement implantés ou développés dans une région du monde pour des raisons historiques qu'ils ne peuvent être universels. Les exemples ne font pas défaut. Le droit à l'éducation, la démocratie, l'interdiction du travail des enfants, la reconnaissance du zéro en mathématiques, tout ça sont nés quelque part, mais sont universels, reconnus universellement, de même que la laïcité. Donc aujourd'hui, deux projets de société s'opposent, l'universalité des droits et notamment des droits des femmes, puisque c'est là où, évidemment, on s'est remis en cause, jamais pour ceux des hommes, et le relativisme culturel, qui considère que chaque société, chaque communauté peut régir la vie de ses membres en fonction de ses aspirations, de ses traditions, fussent-elles néfastes. Donc la laïcité, c'est donc un principe, une philosophie, une façon de penser, une organisation sociale. Donc on l'a déjà dit, c'est un principe qui affirme la séparation des églises de l'État, l'égalité des citoyennes au-delà de leurs croyances et de leur l'origine. C'est aussi une philosophie, celle de la déclaration des droits humains. Donc on a vu là, je vous ai refait un petit parcours de l'histoire de la laïcité. Et là, c'est aussi la défense donc de la liberté de conscience, donc la liberté de croire ou de ne pas croire, de ne plus croire, de changer de croyance. On a vu que la laïcité protégeait donc toutes les minorités religieuses, les mineurs, etc. Et protège les personnes contre toute emprise ou pression. Donc, et la laïcité, c'est aussi un mode de pensée qui encourage l'esprit critique, l'émancipation des dogmes, le libre développement de la connaissance scientifique et artistique. La laïcité légitime l'apprentissage des sciences et de la pensée rationnelle. Par exemple, dans les écoles laïques françaises, à l'école française qui est laïque, eh bien, l'évolution de l'espèce humaine est enseignée en tant que fait scientifique et ne peut être remise en question au nom de croyances comme le créationnisme. Ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays où, justement, par exemple, aux États-Unis, on peut enseigner souvent le créationnisme avec l'influence des évangélistes, etc. Donc, un focus, évidemment, sur les femmes qui sont en première ligne des attaques perpétrées par la religion et pour lesquelles la défense de la laïcité est fondamentale. Voilà pourquoi je vous en reparle. J'ai souvent abordé dans mes émissions la défense de la laïcité, mais voilà, je voulais refaire un petit focus sur ce que c'est, ce qu'elle est et ce qu'elle défend. Donc, les femmes sont focus sur les droits des femmes et la laïcité. Les femmes sont en première ligne des attaques perpétrées par la religion, et c'est la laïcité qui crée ce cadre de liberté et d'égalité entre les femmes et les hommes et qui se donne l'ambition concrète de protéger les femmes des violences du patriarcat. Ça fait partie des objectifs aussi de la laïcité. La laïcité garantit, entre autres aux femmes et aux filles, la possibilité de participer aux luttes citoyennes et aux mouvements de libération des femmes. La laïcité, donc, qu'est-ce qu'elle garantit, enfin, sur quoi elle se penche ? Eh bien, sur le respect de l'intégrité physique et psychique des femmes, sur le droit, leur droit à disposer de leur corps. Elle se penche aussi sur un statut personnel des femmes qui soit affranchi de la religion, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays théocratiques notamment, où les femmes ont un statut qui dépend de la religion et qui du coup est inférieur à celui des hommes. Elles n'ont pas les mêmes droits, et ça se passe notamment au niveau de l'héritage, du mariage, etc. La laïcité préserve les acquis des femmes pour l'accès à la contraception depuis 1967 grâce à la loi Neuwirth et à l'avortement depuis 1975 avec la loi Veil. Elle préserve l'accès aux droits reproductifs, elle préserve l'émancipation des questions de bioéthique et du religieux et donc l'ouverture d'un espace d'échange et de réflexion. Elle préserve l'émancipation des femmes du seul rôle de procréation assigné par les dogmes religieux. La laïcité fait des femmes des citoyennes à part entière en les plaçant sous protection des lois civiques qui permettent aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leurs conjointes ou conjoints et d'accéder à l'héritage de la même façon que les hommes. Elle protège le choix libre et éclairé des femmes dans le mariage et le divorce. La séparation des pouvoirs politiques et religieux est une condition indispensable au respect des droits des femmes et à la reconnaissance de leur caractère universel. Les femmes sont plus autonomes et libres dans les pays où la loi les protège, plutôt que dans des pays où les religions patriarcales sont la source du droit ou bénéficient d'accommodements. Au nom de la culture et de la religion, le deuxième sexe subit la sacralisation de la domination machiste. Dans Tartuffe, le dévot intime l'ordre à Dorine de cacher son sein. Dans l'islamisme politique, la femme doit se voiler entièrement, car sinon elle est rendue responsable du désir de l'homme, ainsi déchargée de sa responsabilité quand il ne maîtrise pas ce désir. Les mouvements politico-religieux se développent au sein de toutes les religions, et la question des droits des femmes et de leur place dans la société est centrale. Sur certaines questions, ils savent faire alliance. Ces questions, quelles sont-elles ? Les droits sexuels, l'émancipation sexuelle, la liberté sexuelle des femmes ou des personnes homosexuelles. Pour les intégristes de tous bords, l'ordre moral passe par la ségrégation et la hiérarchisation des sexes. Alors effectivement, les religions, toutes les religions ont fait alliance, notamment en 1994 au Caire, lors de la conférence internationale sur la population et le développement. Le Vatican et certains pays musulmans ont formé une alliance pour s'attaquer aux droits reproductifs. Depuis, ce bloc, soutenu par les évangéliques, rêve d'altérer les résolutions internationales par des dispositions relatives au respect des traditions et des pratiques culturelles. La religion force le passage, et pour les droits des femmes, c'est la marche arrière garantie. Alors, donc moi je fais partie de ce courant universaliste et effectivement on dénonce un courant relativiste qui est de plus en plus puissant et qui ferme les yeux sur les injustices, les violences et les discriminations dont sont victimes notamment les femmes de culture ou de foi musulmane. C'est un courant relativiste qui refuse de s'opposer au voilement des femmes et même des fillettes au nom de l'antiracisme soi-disant ou du respect du choix individuel, alors que ça n'a rien à voir. Au prétexte de ne pas faire le jeu de l'extrême droite et de ne pas stigmatiser les musulmans. Ce féminisme soi-disant intersectionnel, soi-disant antiraciste, au nom de la lutte contre l'islamophobie, eh bien, en fait, renonce au féminisme et à la solidarité internationale. En somme, c'est une inclusivité excluante. Je vais citer Mariam Namazier, qui dit « Les progressistes qui se rangent souvent aux côtés des islamistes contre nous, les contestataires, sont progressistes quand il s'agit de leur vie et de leurs droits. » Donc Mariam Namazier, j'en avais parlé sans doute déjà dans d'autres émissions. C'est une féministe qui lutte pour la laïcité et qui a créé un ex-Muslims, donc une association d'ex-musulmanes et musulmans, et qui lutte pour la laïcité. Donc elle dit « Les progressistes se rangent souvent aux côtés des islamistes, contre nous les contestataires. » Ils sont progressistes quand il s'agit de leur vie, de leurs droits. Ils veulent légitimement le mariage gay. Ils veulent avoir le contrôle de leur corps, le droit d'être athée et de critiquer le christianisme, le droit d'avoir des relations sexuelles hors mariage, le droit de danser, d'aimer, de vivre de manière indépendante, sans tuteur, d'avoir son propre domicile, le droit d'apprendre et de travailler dans tous les domaines avec un salaire équitable, de jouir pleinement de ses libertés individuelles, de voyager seul, de prendre son héritage en entier de manière égale et d'avoir son témoignage complet et non la moitié de celui d'un homme et transmettre son nom à ses enfants, sans discrimination. Le droit de se moquer du pape et du Vatican. Mais pas quand il s'agit de nous. Leurs exigences pour eux-mêmes sont sans limite, mais nous, nous sommes supposés vivre notre vie que confinés dans les limites de l'islam. Nous sommes vus comme des extensions de nos communautés et de nos leaders religieux, et non comme des individus possédant des droits et des idées politiques qui sont, entre parenthèses, pas spécifiquement occidentales, mais universelles. Donc, dans la plupart de ces pays, même si le voile n'est pas obligatoire, sauf en Arabie Saoudite, les droits des femmes sont souvent très limités. Le mariage des mineurs est courant, comme les crimes d'honneur, où le père, le frère ou le mari peuvent tuer une femme pour un adultère ou des relations hors mariage. La punition de ce crime n'étant que de 2 ou 3 ans de prison. Donc il y a aussi une autre féministe que je connais, qui s'appelle Betty Ibtissam Lashgar, et qui, elle, lutte au Maroc pour la laïcité et contre la théocratie. Et qui dit que la critique des religions est complètement nécessaire. Elle dit qu'il est nécessaire de combattre les religions en tant que dogme, en tant qu'idéologie. Il est nécessaire de combattre les textes liberticides, misogynes, cautionnés sous couvert de la foi. En l'occurrence, les lois et pratiques draconiennes émanant de l'islam, qui ne fait pas exception. Et c'est notre devoir de condamner, de blasphémer. Et d'ailleurs, elle rappelle elle aussi que le blasphème, en fait, n'existe pas, il n'existe que pour les croyants, il n'existe pas dans un pays laïque. Donc voilà, et je vous encourage aussi à suivre Betty Ibtissam Lashgar, j'avais fait une émission aussi avec elle. Et donc elle dit « Toutes les religions sont sexistes et misogynes ». Et elle explique que la loi dans les pays dont l'islam est religion d'État est la charia, c'est-à-dire la loi islamique, où les droits humains n'existent pas, car c'est la loi divine qui est constitutionnelle, et qu'il s'agit de droits musulmans, droits d'oulair, et c'est le cas au Maroc, qui est un État religieux. Donc c'est très intéressant, puisqu'elle vit un pays voilà, où l'islam est religion d'État, donc elle sait de quoi elle parle. Et elle dénonce toutes les pratiques, les lois et les pratiques draconiennes, sexistes, misogynes qui émanent de l'islam et elle les dénonce. Donc elle donne des exemples. Au Maroc, les libertés individuelles sont étouffées. Nous vivons une inquisition socio-religieuse. L'article 222, par exemple, qui existe au Maroc pour qui interdit de rompre le jeûne pendant le ramadan en public. Elle dit « Nous subissons des articles liberticides. En ce qui concerne la liberté sexuelle, l'homosexualité, comme les relations sexuelles hors mariage et ou adultérines qui sont interdites. » Donc au Maroc, elle cite les codes pénales, enfin marocains qui émanent de ces lois islamique, le code 489 qui criminalise l'homosexualité, le 491 qui criminalise l'adultère, le 490 qui criminalise le sexe hors mariage, le 420 qui criminalise l'adultère, non, qui dit que l'adultère est une circonstance atténuante pour un féminicideur. Le 475 qui dit qu'un homme qui détourne ou enlève une mineure ne sera pas poursuivi s'il l'épouse. Le 222 qui dit que en fait on peut aller en prison si une personne connue musulmane rompt le jeûne. Donc quelles sont les conséquences? Eh bien au Maroc le mariage est religieux, les rapports sexuels hors mariage c'est casse-prison pour les femmes. Les femmes n'ont pas le droit d'épouser un non-musulman, les hommes bon là il n'y a pas de problème. Ensuite il y a le problème, il y a aussi l'histoire de la dot où il y a aussi le fait qu'on demande la main de l'élu, donc de la femme au père, au tuteur. On achète les femmes, en somme. Et si une femme divorce et qu'elle a des enfants, elle ne peut se remarier sans l'accord de l'ex-mari. Sinon, elle perd la garde. Voilà. Donc elle lutte aussi contre le mythe de la virginité et ses conséquences. Donc ce mythe, enfin, c'est encore pratiqué voilà, au Maroc. Donc les conséquences de ce mythe, il y a le devoir conjugal, le viol conjugal, dot, le mariage. L'article 488 du code pénal marocain dispose de ce qu'on appelle la défloration, qui autorise la pratique du test de virginité sur les filles et les femmes de viol et inflige par conséquent des peines plus sévères à l'agresseur selon la supposée virginité ou non de la victime. Elle dit « Dans les lois et pratiques sexistes qui relèvent des prescriptions coraniques et des hadiths, la culture du viol régit nos gestes et nos vies. Parce que les lois, les hommes auraient un cerveau reptilien et des pulsions sexuelles que les femmes doivent assouvir. Les mineurs sont mariés. Le juge acte à la demande du patriarche. » Donc voilà, le mariage des mineurs existe toujours. Le viol conjugal donc n'existe pas et c'est le devoir des épouses donc d'avoir des relations sexuelles avec le mari. C'est un devoir. Le compagnon, s'il n'est pas content, a le droit de répudier ou d'épouser d'autres femmes en parallèle.
Donc pour terminer cette émission, je vais justement vous faire écouter Karine Delahaye, qui est porte-parole de Femmes Solidaires en charge du pôle formation et éducation collège-lycée. Donc Femmes Solidaires, c'est un mouvement féministe laïque d'éducation populaire qui lutte contre les violences machistes et pour l'universalité des droits des femmes, avec 190 associations locales, dont Marseille, qui sont répartis sur toute la France et dans les DOM-TOM. Il y a aussi des permanences d'écoute pour conseiller, orienter, accompagner les femmes dans leur démarche. Il y en a à Marseille, c'est le cas. Et Femmes Solidaires se portent aussi souvent partie civile dans les procès relatifs aux violences faites aux femmes. Elle bénéficie aussi d'un statut consultatif aux Nations Unies. Elle est affiliée au Comité interafricain. Et Femmes Solidaires est cofondatrice du réseau international féministe et laïque. Clara Magazine, c'est un magazine de l'actualité féministe et féminine qui est édité par Femmes Solidaires. Cette intervention a eu lieu pendant un colloque organisé par Regards de Femmes. Le thème était la lutte contre l'obscurantisme et les fondamentalismes. Et donc vous entendrez Karine Delahaye qui vous parlera d'abord d'un projet de femmes solidaires qui existe depuis les années 2000 pour protéger de l'excision des fillettes en Éthiopie, en pays afar.
Femmes solidaires est une ONG qui est née des comités féminins de la résistance, donc après un conflit mondial, avec l'idée que si les femmes se rassemblent entre elles, elles pourront créer des fronts pacifiques, se protéger, voilà. Donc c'est très intéressant, très important de comprendre ça pour comprendre comment on est rentré en solidarité avec les Kurdes contre tout ce que la Turquie a fait contre les Kurdes depuis maintenant plusieurs décennies. Et donc à partir de là, effectivement, nos amis kurdes nous ont fait rentrer très tôt dans la solidarité avec les Yézidis. Je voudrais, et c'est comme ça, effectivement, que se tissent beaucoup de réseaux pour nous et la nécessité de montrer qu'à l'international, il y a des femmes qui partagent notre combat contre l'obscurantisme et contre les fondamentalismes et que ce n'est pas une question française. Voilà. En fait, notre stratégie derrière tout ça, c'est évidemment de porter la solidarité, de la partager avec des femmes dans le monde entier, mais c'est aussi de montrer que les questions de laïcité, la lutte contre les fondamentalismes n'est pas une question qui n'intéresse que les Françaises parce qu'elles auraient eu des considérations historiques ou politiques qui fassent qu'elles auraient le droit à la laïcité et pas les autres. Donc en Éthiopie, je voudrais quand même parler de ce pays parce que nous y sommes arrivés dans une solidarité internationale parce que nous avions des militantes éthiopiennes à Femmes Solidaires qui nous ont invitées à passer un moment en Éthiopie et nous sommes rentrées en lutte contre l'excision. Au début, il y a 15 ans, une trentaine de petites filles ont été marrainées et au bout de 5 ans, 900 petites filles n'avaient pas été excisées. Et puis, comme on le sait, toutes les pratiques positives deviennent, enfin, une fois que les pratiques sont installées, on a réussi à continuer cette lutte. Je passe sur cette question qui a été très importante, qui a été très structurante pour Femmes Solidaires, pour en venir à la question des fondamentalismes. Une fois que ces petites filles n'ont pas été excisées, on s'est dit que si on voulait s'assurer qu'un avenir était possible pour elles, ou en tout cas qu'on puisse faire reculer les fondamentalismes, et en tout cas leur donner un avenir, il fallait éduquer. Donc nous avons monté un internat qui se trouve en pays afar. Alors les afar, on a l'habitude souvent de parler des plateaux éthiopiens, parce que c'est la partie la plus touristique de l'Éthiopie, mais les afar sont un peuple semi-nomade, assez pauvre, et qui ne bénéficient pas d'éducation. Quand je dis ne bénéficient pas d'éducation, on y envoie très peu d'instituteurs, et c'est vraiment une région dans laquelle les petites filles sont déscolarisées ou ne sont pas du tout, scolarisées. Donc nous avons montré cet internat. Et l'expérience est intéressante parce que c'est un internat laïque, un des rares internats laïques d'Afrique, c'est-à-dire qu'il peut accueillir des petites filles, voilà, des minorités coptes, musulmanes. Ça ne veut pas dire que les petites filles qui sont dedans ne croient pas ou ne soient pas, n'aient pas de religion. Ça veut dire que la structuration même, qui a été décidée par les femmes éthiopiennes, est une structuration laïque. Ça veut dire qu'on chante chez nous, ça veut dire qu'on danse chez nous, ça veut dire qu'on fait du sport chez nous. Voilà, et je le dis parce que à partir du moment où on a décidé d'éduquer les petites filles, de leur permettre de faire du football, de leur permettre de renouer avec leurs traditions, parce que par exemple les Afars sont un peuple qui avait souvent les seins nus, qui faisait des veillées, qui chantait de façon mixte avec les garçons. Tout ça, avec l'arrivée des fondamentalismes et notamment avec de l'argent qui a été envoyé de l'Arabie Saoudite, on commençait à dire aux Afars vos traditions ancestrales ne sont pas bonnes, elles ne sont pas conformes, elles sont haram, elles ne sont plus conformes à l'islam d'aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'une d'éduquer, c'est-à-dire on a emmené plusieurs jeunes filles déjà maintenant au baccalauréat. Elles continuent des études à Addis Abeba. Et là, je rejoins Nicolas Mine. Hein. La prise de pouvoir, elle est aussi une prise de pouvoir par le savoir, parce que quand vous avez des jeunes filles dans un village qui sont infirmières ou qui ont passé leur baccalauréat, ben, le statut des femmes, en général, se modifie. Mais je veux dire que tout ça ne s'est pas passé en Éthiopie de façon très facile. Hein. On parle de Samuel Paty, mais nous avons eu des prières contre nous hein, à la mosquée de la ville dans laquelle il y a cet internat. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie dans n'importe quel pays de la question de l'éducation des jeunes filles et des petites filles. On ne peut pas travailler sur la question des violences si on ne donne pas aux petites filles la possibilité de s'éduquer. Et je pense que c'est ça notre premier combat contre les obscurantistes, c'est qu'eux souhaitent que les femmes restent dans l'ombre et ne puissent pas s'éduquer, et ne puissent pas prendre le pouvoir. Donc voilà, donc c'est aussi notre combat à l'international, et de dire que dans tous les pays, il y a des femmes comme nous, et on n'est pas une exception française.
À la suite de ça, elle vous parlera de la partie éducative en France, donc de Femmes Solidaires qui intervient dans les collèges et les lycées.
Parler plus précisément de notre agrément à l'éducation nationale et du pôle éducation à Femmes Solidaires. D'abord, un petit mot, Femmes Solidaires est donc une association qui a été créée en 1945, c'est toujours intéressant de le rappeler, c'était des femmes qui étaient engagées dans la résistance hein, et qui, une fois 45, sorties de la clandestinité et avec le droit de vote, se sont dit « c'est bien que les femmes votent, mais si elles ne sont pas éduquées, elles voteront comme leur mari ». Grosso modo, c'était un peu l'idée. Donc, c'est comme ça qu'a été créé notre premier journal, l'ancêtre de Clara Magazine. Et puis, c'est là que s'est imposé à nous l'intérêt, l'importance pour une association comme la nôtre, qui a encore aujourd'hui 190 associations sur le sol français et un réseau de 10 000 femmes, de dire dans le combat féministe, d'abord, il y a l'éducation. Parce que si on n'est pas éduqué, si on ne sait pas lire, si on ne peut pas se débrouiller, si on n'est pas autonome, on sait que c'est compliqué. Voilà. Donc, on a décidé de continuer l'éducation populaire à tous les niveaux. Et donc, moi, je suis en charge plus précisément du pôle formation et de l'éducation dans les lycées et dans les collèges. J'ai fait cette petite aparté parce que nous formons chaque année 11 000 élèves sur trois bases. La lutte contre les stéréotypes, évidemment. La laïcité, l'identité, la citoyenneté, qui est un des sujets sur lesquels, moi, personnellement, je travaille. Et par rapport à ce qu'a dit notre ami juste avant, le troisième sujet sur lequel on intervient, c'est le matrimoine. C'est la mise en relief, la mise en avant du matrimoine français, en tout cas, ça va de femmes comme Marie Curie à… Voilà, on travaille sur des parcours de femmes. Et donc, bien souvent, même quand on parle de lutte contre les stéréotypes, on essaie de faire émerger des femmes comme Rosa Bonheur, par exemple, en peinture. Enfin, voilà. Pourquoi je voulais aussi vous dire ça ? Parce qu'on est souvent… On essaye de dire, vous savez, les élèves, la jeunesse, c'est quelque chose qui… Enfin voilà, les jeunes sont super, ils apprennent bien et tout. D'accord, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le constat que fait Femmes Solidaires, c'est que dans nos écoles, si les choses avancent à l'extérieur, vous avez encore une grande partie d'une classe qui peut être homophobe, vous avez encore des propos antisémites qui peuvent être tenus, on l'a vu… dernièrement, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé à l'automne dernier. Nous faisons les deux, même si ça ne plaît pas souvent aux politiques qui nous disent vous allez un peu trop loin, vous dites que malheureusement, je le dis, il y a peu d'enseignements, il y a peu de lycées d'enseignement général qui nous d'enseignement général, parce que l'enseignement, c'est pas les lycées. Il y a peu de lycées d'enseignement général qui nous font venir, parce que les lycées d'enseignement pensent qu'ils sont au-dessus sur ces questions, et c'est bien plus souvent des lycées polyvalents qui nous font venir. Donc très clairement, nous allons beaucoup dans les quartiers populaires, nous allons beaucoup dans des lycées qui sont en très grande difficulté, dans des zones urbaines sensibles, dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers politiques de la ville. Mais malheureusement, et moi j'ai pu vérifier pour avoir été longtemps à Conflans-Sainte-Honorine, longtemps à Versailles, longtemps dans des quartiers plus huppés, y compris à Paris intramuros, que la question du sexisme, en tout cas, et de l'homophobie, elle se joue aussi dans les quartiers dans les quartiers plus favorisés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de prévenir le harcèlement, on essaie de renforcer l'engagement citoyen des lycéens, et puis surtout, une autre dimension qui est importante dans notre travail, c'est d'ouvrir des dialogues, on en a peu parlé, avec les parents et avec le monde éducatif. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'arriver et de dire « on va vous donner la bonne parole des féministes », parce que nous, on a tout compris comment ça se passe, le continuum des violences, mais plutôt, quels sont les leviers, quels sont les modes opératoires qu'on peut travailler avec vous dans le monde éducatif pour essayer de trouver… voilà, comment dans une classe, quelles questions on peut poser, qu'est-ce qu'on peut lire, comment on peut essayer de penser la vie autrement. Donc ça, c'est pour les valeurs. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est très important, et nous, on a une charte hein, sur l'intervention dans les lycées, nous partons de la parole des lycéens et des collégiens, et y compris dans l'enseignement élémentaire. On discute avec des jeunes, on discute avec des enfants, on leur demande qu'est-ce que vous savez voilà, de telles questions, qu'est-ce qui se passe. Et à partir de leurs paroles, on essaye de détricoter le sexisme, le racisme, la question du domination de genre, la question, tout un tas de questions, la question du matrimoine. Voilà, y a tous les garçons font des sciences et les filles sont nulles. Donc, on dit oui, à part Marie Curie qui a quand même eu 2 prix Nobel. Voilà, on essaye de partir de leurs questions. Et à partir de là, on construit pratiquement à la carte chaque séance avec les enseignants à partir des préoccupations des lycées. Mais c'est très important d'avoir une charte parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens rentrent dans les lycées. On ne sait pas exactement ce qui s'y dit, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Donc, c'est très important aussi de savoir à partir de quelles valeurs nous sommes abolitionnistes. Nous considérons que la prostitution, c'est une violence. Nous considérons que le relativisme culturel n'a pas place dans la cité et que c'est l'universalité des droits et c'est les valeurs de la République qu'on doit défendre au sein d'une classe. Voilà, donc c'est toutes ces valeurs-là qu'on essaye de transmettre. Voilà, ce qui nous paraît le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des territoires dans notre, je l'ai dit, pas forcément que des territoires en grande déshérence financière. Hein. Il y a des territoires où nous ne rentrons pas parce que où ils se trouvent à l'exception en disant nous, on n'a pas besoin que les féministes viennent nous expliquer qu'il y a du patriarcat. Ou parce que l'école n'y est plus une référence, ou parce que les valeurs de la République ne sont plus les valeurs qui sont véhiculées. Et je dois dire qu'on en a peu parlé depuis le début, mais la grande question quand même qui traverse le monde de l'éducation, c'est la question de la religion. Voilà. Je ne vais pas ouvrir un débat sur cette question, mais notre plus grande difficulté aujourd'hui, que ce soit en Bretagne avec des catholiques qui aujourd'hui tiennent l'école, que ce soit dans certains quartiers où l'imam du coin sait plus que les profs d'histoire ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie ou dans le conflit israélo-palestinien, ou dans certains quartiers où les églises évangélistes peuvent vous expliquer comment on fait un enfant grâce à l'opération du Saint-Esprit. Enfin, une des grandes difficultés aujourd'hui du pôle éducatif pour femmes solidaires, c'est de remettre de l'ordre et de l'ordre intellectuel et du sens et de la pensée là où les religions souvent se sont installées dans nos quartiers en difficulté pour le coup, où la connaissance et l'instruction ne sont plus au centre des parcours de vie. Voilà. Donc on s'y adonne et puis il faut vraiment que les associations féministes s'emparent de cette question parce que c'est vraiment la jeunesse elle a aussi envie de connaître, voilà, et de partager et de donner du sens à sa vie grâce à la connaissance.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, lobo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres edo